France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils auraient adoré être jurés au Mondial du Saucisson, qui se tiendra en Ardèche au mois de juin, mais ils se sont inscrits trop tard, donc ils sont venus aux informés de France Info, où ils peuvent développer toute la palette de goûteurs d'actualité. Voilà, saucisson et actualité, c'est notre hommage à Jean-Pierre Pernaut, voilà, pour ses 30 ans de JT de 13h. Et eux, ils ne s'appellent pas Jean-Pierre, mais ils s'en accommodent. Hein. Et ce soir, les informés de France Info Sophie Fay de Loves, bonsoir.
Bonsoir.
Également Roxane Lundy, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes toute nouvelle présidente des jeunes socialistes. Henri Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
Du Parisien aujourd'hui en France. Et l'entrepreneur Aziz Seni, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons d'agriculteurs à l'Élysée, du retour des ordonnances, c'est un peu la boucle temporelle ça, de Jean-Luc Mélenchon et Marion Maréchal Le Pen. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors vous savez, parfois on aime se faire plaisir, hein, quand on a bien travaillé, on se fait des petits cadeaux, on n'hésite pas à reprendre deux fois du dessert au Buffalo Grill par exemple, on est fou. Et le gouvernement, c'est la même chose, pour fêter la décision d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a pile un mois, eh bien il s'est payé une petite évacuation de zadistes, pas piqué des hannetons, hein. À Bure, dans la Meuse, 500 gendarmes ont procédé à l'évacuation d'occupants installés dans un petit bois. Depuis 2016, ils protestent contre la future installation d'un centre de stockage de déchets radioactifs. Alors après Notre-Dame-des-Landes, toutes les attentions étaient focalisées sur ce coin de France, mobilisant de nombreuses contestations. Le gouvernement a montré les muscles, mais la contestation devrait continuer, selon la députée européenne Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi.
Le projet de Bure, c'est un grand projet inutile, c'est un projet aberrant. Je comprends les zadistes. S'il n'y avait pas eu des zadistes à Notre-Dame-des-Landes, on n'aurait jamais arrêté Notre-Dame-des-Landes. S'il n'y a pas des zadistes à Bure, eh bien, c'est le rouleau compresseur, en plus avec toutes les déclarations qu'a fait notre président de la République, qui veut repartir avec le nucléaire ou EDF.
Attendez, Michèle Rivasi, vous encouragez les zadistes à rester là-bas ou à y venir?
Ah, moi j'encourage la résistance citoyenne. À l'heure actuelle, on n'a plus le choix.
La députée européenne, Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi au micro, d'Hercine Lebovitch. En fait, tout simplement, Sophie Fay, le gouvernement ne voulait pas d'une nouvelle ZAD après Notre-Dame-des-Landes, véritablement?
Il ne voulait pas. Il fallait montrer après Notre-Dame-des-Landes que ce n'était pas un épisode qui devait se répéter et que donc dans les autres endroits où il y aurait des ZAD, le gouvernement agirait. Il a donné un autre signal juste après Notre-Dame-des-Landes dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y avait une contestation du contournement de Strasbourg. Et là, il a tout de suite fait les actes administratifs qui montraient qu'on pouvait avancer dans cette direction. Donc il dit deux choses. Il dit Notre-Dame-des-Landes, ok, on a réglé le problème qui était enlisé depuis 15 ans d'une certaine manière, mais on ne va pas laisser les autres problèmes se réaliser pendant 15 ans. Maintenant, il faut quand même respecter un certain débat démocratique. Et à Bure, ça va être nécessaire, vu l'ampleur du projet et la dimension nucléaire du projet, qui est différente de celle de Notre-Dame-des-Landes. Mais en tout cas, ils ont marqué, de ce point de vue-là, un acte politique fort.
Roxane Lundy, vous, cette évacuation, justement, le fait des 500 CRS qui étaient là pour évacuer ces personnes?
Moi, je pense que justement, il faut faire vivre le débat démocratique. Aujourd'hui, le projet CIGEO à Bure est véritablement problématique. Moi, je m'interroge quand même, quel est ce gouvernement qui criminalise le fait de défendre l'environnement, ce gouvernement qui criminalise l'exil, le fait d'accueillir des exilés, quel est ce gouvernement qui finalement criminalise l'ensemble des engagements qui peuvent vivre dans la société?
Moi, je suis pour le débat illégal tout de même.
C'est une occupation illégale en effet, mais je pense que le débat démocratique sur le projet CIGEO n'a pas du tout été à la hauteur. Aujourd'hui, il est important de s'intéresser à cette question. Nous parlons quand même d'un engagement extrêmement fort de l'ensemble de la société engagée vis-à-vis de la sortie du nucléaire. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui n'est pas à la hauteur.
Alors, Henri Vernet, on se souvient de... est-ce que c'est une manière aussi de répondre à certains élus de l'Ouest de la France qui, en évoquant l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avaient dit « le gouvernement cède aux zadistes ». Est-ce que là, on est aussi un petit peu là-dedans avec cette évacuation?
Oui, en quelque sorte, c'est un point qui est rendu justement aux élus locaux, hein, dont on sait que pour eux, c'est toujours important d'avoir ce genre de projet parce que ça signifie des rentrées financières, des taxes, etc. Donc, c'est une façon, exactement, de leur rendre le point, de montrer aussi, parce que la ZAD, le problème n'est pas totalement réglé, il reste encore du monde sur place. Donc, c'est aussi un avertissement, un message à l'adresse de ceux qui pourraient être encore tentés du côté de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'il s'agit d'avoir un grand projet d'agriculture bio, etc.
Exactement.
Et donc, là aussi, il y aura besoin un jour de disposer du terrain très concrètement. Donc un avertissement en quelque sorte que ça y est, l'autorité est de retour. Maintenant, là où je vous rejoins, je suis d'accord avec vous, c'est que ce qui n'est pas du tout réglé sur le fond, c'est tous les recours possibles et toutes les études alternatives qui pourraient rester encore sur ce projet qui, en effet, est assez contesté et qui mériterait une concertation encore plus poussée. Et je pense d'ailleurs que ça, c'est un service à rendre à Nicolas Hulot, qui là quand même se retrouve vraiment porte-à-faux parce que c'est un projet contre lequel il a beaucoup combattu.
Exactement, on va le voir tout à l'heure.
Et voilà, on le verra tout à l'heure. Et donc à lui maintenant de mener une concertation qui soit plus sérieuse.
Aziz Seni, ce retour finalement, Gérard Collomb a dit, c'est le retour aujourd'hui du droit à Bure. Est-ce qu'on est dedans ou au contraire, on est les opposants disent, non, mais nous c'est la démocratie, on veut se battre aussi comme ça.
Mais il peut pas y avoir de droit sans empathie. Qu'il y ait un état de droit, je pense que personne ne reviendra sur ce point-là. Le ministre fait preuve de fermeté et il a raison. Maintenant, moi j'ai été un petit peu regarder les chiffres et les chiffres que je vais vous donner, c'est Le Monde qui les publie. Bure, c'est 5600 habitants. C'est 16% de population qui a moins de 15 ans, 32% qui ont plus de 60 ans. C'est 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires qui sont enfouis à 500 mètres de profondeur. Je me dis, si j'habite là, est-ce que je suis pour cela? Donc, l'état de droit, oui, mais est-ce que les habitants peuvent quand même dire, on n'est pas d'accord, est-ce qu'on peut quand même débattre et peut-être même réfléchir à trouver un endroit où il n'y a personne? Et en France, il y a des endroits où il n'y a personne.
Et c'est ça, on se souvient, Sophie Fess avait fait un énorme débat, hein, d'ailleurs, trouver cet endroit où on pouvait entretenir. Est-ce qu'à votre avis, ça peut relancer aussi une réflexion aujourd'hui sur le nucléaire? On va voir Nicolas Hulot dans un instant, mais lui-même avait dû reculer sur les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut relancer?
Écoutez, ça va relancer. La réflexion sur le nucléaire, elle est permanente, mais enfin, elle est quand même assez claire. Là, on voit bien que la sortie, elle ne peut être que très progressive, en sifflet, puisqu'il faut le remplacer progressivement par des énergies renouvelables. Et même si on ouvre la discussion sur le nucléaire, il faudra bien faire quelque chose des déchets qu'on a à traiter. Donc, faut ouvrir on va avoir un vrai débat, beaucoup d'explications, qui sont nécessaires. Et c'est vrai que ce serait bien que Hulot s'en empare enfin.
Eh ben, on va le voir justement dans un instant, Nicolas Hulot, qui était un petit peu gêné aux entournures aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre pourquoi. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Tariq Ramadan reste en prison. La cour d'appel de Paris maintient ce soir en détention provisoire l'islamologue poursuivi pour deux viols. Cette semaine, une expertise médicale confirmait que cette détention était compatible avec son état de santé. Le SDF qui avait volé 490 000 euros à Roissy a été arrêté, mais sans le butin. Ce sans-abri a été interpellé à la Courneuve lors d'un contrôle d'identité. Il dit qu'il a été enlevé, séquestré et s'est fait voler une partie de cet argent. Les 490 000 euros dérobés en décembre dernier à l'aéroport reste introuvable. Le bilan passe cette fin de journée à plus de 400 civils tués en 5 jours à La Ghouta. Le régime syrien pilonne toujours cette enclave rebelle. Malgré des pressions internationales de plus en plus nombreuses, à commencer par celle de la France, l'ONU réclame toujours une trêve humanitaire. Un nouveau problème sur l'EPR de Flamanville dans la Manche. Des techniciens ont détecté une anomalie de soudure sur le circuit secondaire de ce réacteur nucléaire en construction. L'autorité de sûreté nucléaire considère que ce problème est plus grave que prévu. Jusqu'à présent, EDF assurait que le calendrier serait tenu avec une mise en route pour ce réacteur à la fin de cette année. Et puis le tableau affiche 15 médailles pour la France aux Jeux Olympiques, un score comparable aux JO de Sochi, avec aujourd'hui une médaille de bronze en biathlon pour le relais féminin.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, eh bien ce matin, à l'aube, dans la brume, 500 gendarmes ont évacué une dizaine de personnes, en fait, qui occupaient illégalement le site de Bure où devrait s'implanter un centre de retraitement des déchets nucléaires. Alors justement, quand on parle de nucléaire, quand on parle d'environnement, à qui on pense? On pense à Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot, quand il était militant, associatif, il avait manifesté contre l'implantation de ce centre de recyclement de déchets nucléaires. Maintenant, il est ministre, et ça pose quelques problèmes. Vous allez entendre l'échange entre une députée insoumise, Mathilde Panot, qui va lui agiter une photo sous le nez, et la réponse du ministre, donc Nicolas Hulot. On les écoute, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Regardez cette photographie que je vous ai apportée. Les militants de Bure, vous voyez au moment où elle a été prise, comme je vous vois aujourd'hui. Je ne vous reconnais plus.
Madame la députée Panot, bon. J'ai pas l'impression fondamentalement d'être en porte-à-faux avec ma conscience. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là, avec ces déchets ultimes dont personne ne veut, ici, en France et ailleurs. Sauf que maintenant je suis responsabilité, la seule chose qui a changé, c'est ma fonction.
Voilà, donc Nicolas Hulot, Henri Vernet, on palpe le malaise quand même chez lui.
On palpe même l'image d'un homme qui a l'air véritablement accablé. C'est vrai qu'il s'est quand même pris beaucoup de dossiers ces derniers temps. Bon, il y a eu cette affaire hein, qui, avec les accusations de l'Hebdo. On a bien vu que ça l'a énormément marqué. Il est souvent pris en contradiction entre son nouveau rôle de ministre et son ancien rôle de militant, d'activiste. Donc c'est quelqu'un finalement dans le passage gouvernement semble presque être un chemin de croix permanent.
Il le dit d'ailleurs,
c'est une souffrance. Parfois, on se dit qu'il faudrait l'abréger, cette souffrance, qu'il devrait peut-être lâcher l'éponge. Ce qui serait dommage d'ailleurs, parce qu'on a besoin justement de gens qui, malgré tout, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui reste fondamentalement convaincu. Mais simplement, il doit davantage faire vivre ses dossiers. Accessoirement d'ailleurs, on a vu qu'aujourd'hui, il y a un nouveau plan loup. Là aussi, moi je me rappelle l'avoir entendu dire que chaque tir porté à un loup était là aussi encore une souffrance pour lui. Et là, en l'occurrence, on aura une quarantaine d'ici la fin de l'année. Donc, je veux dire, cet homme-là doit souffrir chaque minute qui passe à son ministère. Mmh. Bon, maintenant, il faudrait quand même qu'il compense ça réellement en s'attaquant à des dossiers aussi sérieux que celui de Bure. Quand je dis aussi sérieux, c'est que justement, non, pour l'instant, c'est pas un débat sur lequel il y a eu une concertation intense, il y a eu une transparence totale. Non, le nucléaire en France, alors militaire, n'en parlons même pas, mais même civil, ça reste quand même un domaine qui est
presque tabou, on dirait.
Encore tabou, en tout cas difficile à percer, à mettre sur la place publique. Et donc voilà que Hulot réellement ouvre les fenêtres et les portes sur ce sujet-là.
Roxane Landis, quand vous voyez là justement Nicolas Hulot ce malaise, est-ce que aussi on est confronté à un homme qui se retrouve, qui se dit je peux être ministre pour mettre enfin en place, en œuvre ce que j'ai souhaité en tant que militant, et qui est confronté à la réalité du pouvoir? C'est toujours compliqué entre ses opinions et la réalité.
Pourquoi devrait-il y avoir contradiction entre son engagement militant et son engagement maintenant en tant que ministre? Pourquoi devrait-il y avoir contradiction? C'est un militant écologiste de la première heure, Monsieur Hulot. Moi, je ne comprends pas pourquoi, maintenant qu'il est ministre de l'Environnement, ce qui est une charge incroyable quand on sait qu'aujourd'hui l'urgence écologique est quand même l'une des priorités pour l'ensemble de notre société, que si nous ne faisons rien, bientôt nous ne pourrons plus rien faire. Comment se fait-il que maintenant qu'il a la chance, l'occasion de pouvoir changer tout cela, eh bien il ne se montre pas à la hauteur? Moi, je pense que Monsieur Hulot est aussi pris en étau finalement entre son engagement depuis des années, qui est un engagement écologiste, un engagement à gauche, comme il l'a toujours revendiqué, et aujourd'hui la politique aussi néolibérale de ce gouvernement, dans lequel il est, et il doit objectivement faire face au fait que, oui, la ligne du gouvernement n'est pas celle-ci.
Alors pourquoi vous dites à gauche? Parce que c'est vrai, sur ce plateau à votre place, il avait dit, j'ai voté Benoît Hamon au premier tour. Sophie Fay, là, on voit aussi la contradiction, c'est lui qui peut qui pourrait porter aussi, on se souvient de Sébastien Lecornu qui avait été à Bure, qui avait dit je vous entends, je rencontre tout le monde, et apparemment il ne s'attendait pas du tout à cette réaction.
Oui, mais là il a, je trouve que sa réponse, elle est embarrassée, parce qu'effectivement ça doit lui faire mal, mais elle est quand même assez logique. Il était militant écologique, il aurait préféré qu'il n'y ait pas de nucléaire. Il y a du nucléaire, il y a des déchets, et pire que ça, la France est un des champions du traitement des déchets. On a cette usine Areva à La Hague, qu'on est en train, c'est une technologie qu'on est en train de vendre aux Chinois, qui ont au gouvernement chinois, donc et qu'on va mettre en place là-bas. Donc ça, il est bien obligé de faire face avec ça, ou fallait pas rentrer au gouvernement. Aujourd'hui, et bien, quelles que soient ses convictions environnementales, écologiques, il faut bien qu'il règle cette question des déchets nucléaires. Donc, il est forcément à un moment donné, quand on passe du rôle de militant au rôle de ministre, quand on rentre dans un gouvernement, on est confronté à des réalités qui sont pas faciles, et forcément on est face à certaines contradictions.
Une dernière chose sur ce sujet, Zisseni, on voit ce soir la droite qui est plutôt pour l'intervention de ces gendarmes, la gauche qui n'est pas contente. C'est difficile toujours de contenter sur ces sujets. On se souvient de Notre-Dame-des-Landes également. On savait que ça n'allait pas faire, des ravis dans tous les camps.
Moi, quand je vois Nicolas Hulot, il y a une phrase de Mao Tse-tung qui me revient, c'est que le pouvoir, c'est comme les toilettes. Quand on n'a rien à y faire, il faut laisser la place. Vous, vous le regardez avec cette dimension, le pauvre, il doit souffrir. Ouais. Moi, je me dis qu'au vu de son expérience, il savait très bien qu'il allait être confronté à la réelle politique. À la réelle politique. On est dans l'opposition, quand on est militant, tout est facile. On promet toujours tout. Et c'est la façon dont beaucoup d'acteurs politiques ont construit leur carrière. Dans l'opposition, c'est facile de promettre et de dire « poussez-vous, vous allez voir ce que vous allez voir quand j'y serai ». Nicolas Hulot n'est pas une exception, finalement. Il arrive à un poste et il voit que c'est beaucoup plus compliqué que quand il était en t-shirt à Bure avec sa petite pancarte.
Roxane Landy, pourquoi vous êtes...
Je suis pas du tout d'accord. C'est extrêmement dur d'être dans l'opposition face à un gouvernement. C'est extrêmement dur d'être au quotidien engagé dans la société pour mener des combats. Moi, je suis extrêmement fière, en tout cas, de celles et ceux qui se mobilisent dans la société engagée contre le nucléaire, pour la sortie du nucléaire. Et pour l'ensemble des militants, quels qu'ils soient, des militants de la justice sociale,
qu'est-ce qu'on fait pour les déchets?
C'est facile de le faire, mais François Hollande est passé par là, et les socialistes étaient déjà bien avant François Hollande.
Mais toujours est-il que je pense que ce ne sont pas que des paroles.
Pas tous ensemble. Sophie Féry, non mais c'est ça.
Moi, je trouve qu'à chaque fois que Nicolas Hulot est pris face à ces contradictions, on n'entend pas de gens qui le soutiennent. À l'extérieur, on a l'impression que c'est le seul écolo de France et on n'entend pas de propositions alternatives. C'est-à-dire, sur ces déchets de Bure, si on ouvre un débat, quelles vont être les propositions alternatives?
Oui, c'est ça.
Qui va être volontaire pour accueillir les déchets dans un autre endroit? Ça sera intéressant. Il y aura peut-être un maire socialiste qui va trouver une meilleure solution. C'est vraiment un problème difficile, quoi.
On le voit quand même, Henri Vernet, que c'est quand même toujours un dossier à part. Et dès qu'on parle de Nicolas Hulot, on sent qu'on est en train de toucher la nitroglycérine, pardon.
Parce que c'est question.
Parce que là, par exemple, au sein de l'agriculture, qui commence samedi, au niveau opération de com, il va y aller avec Stéphane Travert. Les deux ne s'aiment pas, on le sait bien. Ils ne s'entendent pas du tout. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Écologie ne s'entendent pas. Et pourtant, ils sont obligés de se montrer ensemble. C'est-à-dire que tout, en effet, tout est problématique quand même.
Alors, tout est problématique, mais tout est aussi, enfin, pas tout, mais beaucoup de choses sont aussi solvables dans le compromis. Parce que gouverner, c'est quand même ça également. Donc moi, quand je dis Hulot, il est souvent pris en contradiction. Oui, c'est vrai, et c'est douloureux pour lui. Alors, il ne s'agit pas de s'épitoyer, on est bien d'accord. Il l'a choisi, il a accepté d'entrer au gouvernement. Il le conçoit d'ailleurs comme une mission. Il dit, moi, c'est la dernière chose que je peux faire sur le plan public. Et après, je m'arrêterai. Il sera ministre. Il ne cherchera plus éventuellement être président ou pas, puisqu'il en a été question parfois. Donc, pour lui, c'est quand même... Enfin, il le vit, en tout cas, comme un engagement. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur Travers et lui au salon, on voit bien que, par exemple, les états généraux de l'alimentation, il y a quand même des terrains sur lesquels il peut trouver un minimum de feuilles de route, un minimum de plans d'action. L'engagement sur le bio, par exemple. Tout n'est pas... Je veux dire que tout n'est pas complètement à jeter dans son... C'est pas encore l'heure de bilan. Mais enfin, il y a quand même un plan de sortie du nucléaire. Alors, c'est un plan qui est pas très précis, mais qui est quand même réaffirmé. Il y a la fin de la voiture thermique. Pas pour aujourd'hui, pour 2040. Mais je veux dire qu'il y a quand même des terrains sur lesquels il avance une action, il avance une feuille de route. Gouverner, c'est faire des compromis, et plus encore quand on est au ministère de l'écologie, qui de toute façon est toujours considéré maintenant encore comme la variable d'ajustement.
Oui, ou alors qui sert aussi à faire un peu de communication, face à Donald Trump. Allez, on va continuer à parler de politique dans un instant. L'info à 20h20, c'est Stéphane Milhomme.
Avec ce rassemblement ce soir de près de 200 personnes à Bar-le-Duc, la suite de la journée de mobilisation de ses opposants au projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Évacuation aujourd'hui de la forêt où une quinzaine entendait s'installer. 500 gendarmes étaient mobilisés. 7 personnes ont été placées en garde à vue selon la préfecture de la Meuse. Et si la réforme de la SNCF était décidée à travers des ordonnances? C'est une possibilité pour Christophe Castaner. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement pense qu'il faut aller vite dans cette réforme du ferroviaire. C'est une déclaration de guerre, reconnaît ce soir la CFDT Cheminots. Nordan Lelandais n'était pas en état de répondre aux questions du juge une semaine après ses aveux sur le meurtre par accident, selon lui, de la petite Maïlys. Il est resté muet au palais de justice de Grenoble. Nordan Lelandais a été reconduit dans la journée à l'hôpital psychiatrique près de Lyon où il est soigné depuis la fin de semaine dernière. 700 jeunes agriculteurs à l'Élysée. Emmanuel Macron s'est affiché aujourd'hui en défenseur de leur cause. Il affiche sa fermeté notamment dans les discussions en cours sur l'accord européen de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Et puis vitesse réduite de 20 km/h demain dans les Hauts-de-France face à une pollution de l'air due aux particules fines. La poursuite de la restriction en Île-de-France. La ville de Paris demande d'ailleurs à la préfecture de mettre en place, si possible, la circulation différenciée, c'est-à-dire en fonction de la vignette critère.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, le monde de la politique est plein de découvertes, de merveilles permanentes. Par exemple, on ne s'était jamais posé la question de savoir, mais au fait, quand Marion Maréchal Le Pen parle anglais, quel accent elle peut avoir? Eh ben, elle a vraiment un très 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 bel accent. Elle qui veut monter une école, je pense qu'il y a quelques cours d'anglais voilà qui pourront être dispensés, ça peut être sympathique, puisqu'elle est revenue aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen. On l'avait un peu perdu de vue depuis un an, et ça se passait dans le Maryland aux États-Unis, où elle était l'invitée d'une association de conservateurs américains. Eh bien, elle s'est expliquée pourquoi elle était là, quelle était sa vision et pourquoi surtout elle veut créer une école. On écoute Marion Maréchal Le Pen.
Nous devons faire connaître nos idéologies aux médias et notre culture pour stopper la domination des libéraux et des socialistes. C'est la raison pour laquelle j'ai récemment lancé une école de gestion et de sciences politiques. Quel est son objectif? De former les leaders, les dirigeants de demain. Former ceux qui auront le courage, le discernement et les compétences de défendre les intérêts de leur peuple. Le défi est énorme, mais ces deux dernières années nous ont montré une chose. Il ne faut jamais sous-estimer le peuple.
Voilà, Marion Maréchal Le Pen, donc, depuis les États-Unis. Pour vous, Sophie, elle fait son retour, Marion Maréchal Le Pen, en petit caillou?
En tout cas, ça y ressemble. On voit bien que il y a beaucoup de confusion à droite, beaucoup de confusion dans son propre parti, et là, les Américains lui tendent une perche assez formidable. Quoi.
Elle leur a servi, un discours où on est revenu sur les fondamentaux justement du Tea Party même américain, hein, c'est-à-dire sur le génie de l'avortement, etc. Henri Vernet, c'est important pour elle dans la vision française, parce qu'elle sait que tous les médias français vont en parler, non?
Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ce discours, elle le sert davantage aux Français, et singulièrement à sa famille politique et sa famille tout court, à sa tante en l'occurrence, qu'aux Américains, qui sont là, voilà, c'est un petit peu un amuse-bouche, j'allais dire, en attendant Trump et d'autres.
Voilà, parce qu'il est invité du Congrès, voilà.
Exactement. Mais oui, mais justement, ça aussi, c'est un signal extrêmement important parce que Marine Le Pen, elle, quand elle avait souhaité voir Trump, il l'avait laissé poireauter en vain en bas de Trump Tower. Et donc, c'est doublement un camouflé, c'est un message. Moi, je dirais pas que c'est un retour. Pour l'instant, il n'y a pas question de ça. En revanche, c'est une carte postale. Vous savez, comme Nicolas Sarkozy s'avait en adressé lui aussi pendant sa traversée du désert, si l'on peut dire, après sa présidence à Victoire de Hollande, c'est une carte postale avec justement des fondamentaux. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, là, tout ce qu'elle a dit, ce sont les valeurs, j'allais dire, de la droite dure, quoi, la droite, l'extrême droite, Cato, c'est la manif pour tous. Elle a parlé d'ailleurs de fin de vie, hein, de l'opposition à l'euthanasie. Elle a une formule très dure sur l'islam, la France qui était la fille de l'Église et qui est devenue, je ne sais plus quelle est son expression exacte, mais en gros la petite nièce de l'islam. Enfin, je veux dire, elle cogne très fort au moment où sa tante, elle, donc où Marine Le Pen, la patronne du FN, est en train, ne sait plus très bien où elle habite, est en train, dans quelques semaines, au moment du congrès de Lille, eh bien, tout simplement, le nom de FN va disparaître, être remplacé par autre chose. Donc elle est là, elle occupe le terrain, elle, sur un terrain qui est, comme elle l'a dit, loin des libéraux, loin. C'est aussi un tacle à Laurent Wauquiez.
Et surtout, elle a aussi repris à son compte l'expression de Donald Trump, France first, donc la France en première. Roxane Lundy, pour vous, ce qui se passe là avec Maréchal Le Pen, c'est quoi? C'est un retour, c'est une carte postale, c'est elle grille la politesse à sa tante? C'est elle qui prend date pour la suite?
Probablement. Moi, ce que je constate, c'est que Madame Le Pen disait avoir quitté la politique. En tout cas, ses idées arriérées ne l'ont pas quittée. Ça, c'est une certitude. On peut voir qu'elle tient des propos, en effet, extrêmement durs. Extrêmement choquant, et pour celles et ceux qui s'interrogeaient encore pour savoir si le Front National finalement était toujours aussi xénophobe, toujours anti-droit des femmes, toujours aussi réactionnaire, dangereux dans ses propos et raciste, eh bien au moins ils en ont eu la confirmation aujourd'hui.
Mais ce qui est quand même intéressant à Zissini, c'est que ça soit elle justement qui soit invitée. C'est vrai que sur les médias alt-right, c'est-à-dire de la droite alternative aux États-Unis pendant l'élection de Donald Trump, c'est elle la voix française du populisme, du nationalisme. C'est quand même aujourd'hui, on le voit pour eux, c'est la valeur montante.
Oui, c'est beaucoup de com', c'est beaucoup de marketing. Il y a le Trump Show. On a une artiste qui fait la première partie, qui s'appelle Marion Maréchal, qui vient faire des claquettes. L'habillage est bien fait, mais les fondamentaux de l'extrême droite sont toujours là. Et moi, je vois là un retour programmé, un retour beaucoup plus dangereux. Je ne ferai pas ici de révélation sur la vie privée, mais je pense qu'elle a encore une cartouche et une belle carte pour démontrer qu'elle n'est pas raciste et que, vous voyez, moi, je suis ouverte et même au sein de ma famille.
C'est-à-dire.
Je n'en dirai pas plus parce que c'est
sur les initiés. C'est pas les informés, c'est les initiés. Alors c'est un délit quand on.
Tout à fait. Moi, je vois un tacle à sa tante, bien évidemment, et je vois que il y a un magnifique coup de billard qui se prépare pour reprendre la présidence. Alors, je me souviens quand même d'une petite phrase de Marion Maréchal Le Pen qui avait dit que avec Wauquiez, ils avaient sûrement des choses à faire ensemble. Donc, si Monsieur Wauquiez se maintient à la barre, je pense là qu'on nous avons un tandem, non pas Dupont-Aignan, Madame Marine Le Pen, mais peut-être un Wauquiez Maréchal.
Et pourtant, lui,
un ticket à jouer.
Ouais, mais lui a toujours dit, voilà, c'était quand même le chiffon rouge. Voilà, il l'a encore redit.
Il avait aussi dit qu'il avait beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy. Il avait aussi dit qu'il travaillerait avec Valérie Pécresse. Il avait su, je dois reprendre toute la liste de ce qu'a dit Monsieur Wauquiez.
Ouais. Allez, de toute façon, dans un instant, on va continuer. On parlera alors de politique aussi et d'économie, puisque figurez-vous que les ordonnances, si ça vous dit quelque chose, forcément, vont peut-être faire leur grand retour. Et on parlera également agriculture, puisqu'Emmanuel Macron a reçu une centaine, on ne sait plus, 200, 300 000. Enfin bref, tout le monde était là. C'était à l'Élysée, eh bien, à midi. Et cet après-midi, voilà la suite du programme des informés de France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, après Noël, la Saint-Valentin et maintenant le ski, on se dit que vu le budget pour la suite, il va falloir faire des économies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On active notre radar à bonnes affaires.
Ne cherchez pas plus loin. Jusqu'au 26 février, pendant les Happy Box Days de SFR, la box starter est à seulement 4,99€ par mois pendant 12 mois, puis 34,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux 25 000 premiers clients. Engagement 12 mois, location box offerte, frais d'ouverture de service 49€.
Ce vendredi, tirage exceptionnel Euromillion, avec 25 gagnants européens à 1 million d'euros. Alors, imaginez...
Moi, j'achète un chalet dans les Alpes!
Avec vue sur le Mont-Saint-Michel.
Puis-je pars faire le tour du monde?
Dans un jacuzzi géant!
Euromillion My Million, imaginez... Ce vendredi, tirage exceptionnel Euromillion, 25 gagnants européens à 1 million d'euros. Participation par l'attribution de code Euromillion parmi les pays participants, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Encore une nuit froide avec des températures le plus souvent négatives et des minimales descendant jusqu'à moins 5 degrés au lever du jour, avec par exemple moins 2 degrés à Paris, Bordeaux et Lyon. Demain après-midi, les maximales seront aussi fraîches pour la saison. Prévoyez seulement 2 degrés à Mulhouse, 3 degrés à Orléans et Besançon, 4 degrés à Lille et Caen, 7 degrés pour Brest et pour Toulouse. On ira jusqu'à 11 degrés à Montpellier et à Toulon. Côté ciel, les conditions évoluent peu. Des côtes de la Manche à la Lorraine, à la Sologne, jusqu'au Poitou et à la Gironde, la journée sera baignée de soleil. Belle journée également sur le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées, malgré un ciel voilé. À cause de nappes de grisaille, les éclaircies seront plus timides, des plaines du sud-ouest au Berry et au Massif central, jusqu'en Alsace, au Jura et à l'est du Rhône. La Corse gardera de l'instabilité avec des averses plus nombreuses sur le nord-est de l'île et une limite pluie-neige passant de 800 à 1200 mètres. Cette instabilité va aussi apporter un peu de neige sur les Alpes frontalières entre la Tarentaise et le Mercantour et quelques averses jusqu'au Var.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La CFDT Cheminots souhaite un préavis de grève illimité. Elle en a fait la demande à l'intersyndicale après les propos ce matin de Christophe Castaner. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement n'exclut pas un recours aux ordonnances pour réformer la SNCF. Julien Lenglet, ça a fait beaucoup parler à l'Assemblée nationale.
En annonçant sans crier gare que le recours aux ordonnances était envisagé pour réformer la SNCF, Christophe Castaner a mis le patron du groupe communiste à l'Assemblée très en colère.
Ça me scandalise. S'il y a un sujet sur lequel c'est absolument inacceptable de légiférer par voie d'ordonnance, c'est bien celui du maillage ferroviaire et du devenir de cette belle profession qu'est celle de cheminot.
Dans le sillage d'André Chassaigne, les communistes ont décidé de monter en première ligne sur le sujet. Sébastien Jumel, le député normand, met en garde le chef du gouvernement.
Ça pouvait être aussi la goutte d'eau sur l'abandon des territoires qui fait déborder le vase de la démocratie.
À droite, le président du Sénat ne veut pas d'un Parlement contourné. Le gouvernement déraille, ironise Julien Aubert, le député vauclusien des République.
Il y a quelque chose de très contradictoire à faire élire 300 députés dits du Nouveau Monde et systématiquement leur expliquer que leur avis et leur expérience ne sert à rien.
Les ordonnances, c'est un outil constitutionnel pour être efficace.
Hugues Ranson est député marcheur de Paris et vice-président de l'Assemblée.
Ce n'est pas au détriment du dialogue. Le débat parlementaire, il a toujours lieu, même lorsqu'on a recours aux ordonnances.
Le Premier ministre présentera méthode et calendrier lundi. Il sait déjà qu'il trouvera sur son chemin beaucoup d'élus prêts à croiser le fer avec lui.
Julien Lenglet, quelques dizaines de personnes manifestaient ce soir devant la préfecture de la Meuse, des militants écologistes opposés à l'évacuation du site de Bure, le bois Le Jus. Les forces de l'ordre sont intervenues ce matin, 7 personnes sont en garde à vue. Le site doit accueillir un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Tariq Ramadan reste derrière les barreaux, l'universitaire suisse poursuivi pour viol. Il est en détention provisoire à Fleury-Mérogis, situation qui était examinée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Le principal intéressé a refusé de s'y rendre, il réclame sa libération pour raisons médicales. 400 morts en 5 jours en Syrie, dans la Ghouta orientale, des bombardements du régime sur cette enclave rebelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce soir sur l'idée d'un cessez-le-feu peu probable, puisque la Russie s'y oppose. Des comptes des victimes réalisés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, alors que le Quai d'Orsay croit savoir que Damas prépare une attaque terrestre. Le pouvoir haïtien annonce le départ d'Oxfam de son territoire. L'ONG n'est plus autorisée à travailler là-bas pour les 2 prochains mois. Première sanction après le scandale sexuel qui touche certains humanitaires. Deuxième période de Villarreal Olympique Lyonnais, c'est du football. 16e de finale retour d'Europa League. 0 partout après 70 minutes de jeu, ce qui arrange Lyon qui a gagné le match aller. Vous écoutez France Info, 20h33, la suite des informés, Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ne sont que passion et sensation pour l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Sophie Fay de l'Obs, Roxane Lundi, présidente des Jeunes Socialistes, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, et l'entrepreneur Aziz Seni. C'est un petit peu l'instant Marty McFly du gouvernement. Vous savez, le héros de Retour vers le futur qui file dans le passé pour résoudre des problèmes du présent. Voilà, c'est une trilogie qui inspire le gouvernement puisque concernant la future réforme ferroviaire, il n'exclut pas d'avoir recours, attention au choc temporel, aux ordonnances. Voilà, ça c'est le bruit du choc temporel, on est sur le service public donc on n'a pas trop de moyens. Souvenez-vous, ce procédé de faire passer une loi sans débat parlementaire avait été très discuté au moment de la loi sur la modification du code du travail en septembre dernier. L'exécutif souhaite aller vite alors que ce soir la CFDT, on l'a entendu, rejoint la CGT dans la journée d'action ferroviaire du 22 mars prochain. Les ordonnances, une idée en l'air ou déjà acquise, eh bien on y réfléchit. Selon le secrétaire d'État chargé aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner.
On a quelque part diabolisé les ordonnances, mais c'est aussi une façon de travailler vite et bien sur un sujet aussi majeur que sauver le service public de la SNCF.
Si j'ai bien compris, c'est une possibilité, le recours aux ordonnances.
Bien sûr, c'est une possibilité. Il faut réagir vite. Il faut empêcher de poursuivre cette fuite en avant où on a presque bientôt 50 milliards d'euros de dettes.
Voilà, Christophe Castaner, donc ce matin sur BFM. Alors, c'est vrai que Sophie Fay, on se souvient au printemps dernier, l'annonce des ordonnances, c'était même pendant la campagne, hein, même Emmanuel Macron en parlait, disait, l'opposition disait que c'était un déni de démocratie. Le fait là de les remettre sur le terrain, est-ce qu'on va pas repartir dans ce débat-là de nouveau ?
Peut-être, mais ça les arrange bien. C'est pas comme si on n'avait pas compris que La République En Marche avait une majorité écrasante à l'Assemblée et que de toute façon, que le texte soit par ordonnance... de toute façon, il y aura toujours un débat législatif. Donc que ce soit un débat législatif sur tous les articles du texte ou un débat sur une loi d'habilitation d'ordonnance, puis un débat sur les ordonnances, la loi de ratification des ordonnances après, de toute façon, il y aura un débat et on n'ira pas dans le détail. Mais de toute façon, à la fin, c'est La République En Marche qui gagne puisqu'ils ont une majorité écrasante. Et là, au lieu d'avoir un débat sur le fond, sur comment, qu'est-ce qu'on fait sur la SNCF, est-ce qu'on supprime le statut pour les nouveaux entrants, est-ce qu'on réforme le statut pour tous, on a un débat sur les ordonnances. Et pour l'instant, ça les arrange bien parce que pendant ce temps-là, ils peuvent discuter avec les syndicats d'autres choses. Quant à la CFDT, qui rejoint la journée du 22 mars, de toute façon, elle y serait allée.
Voilà, on va en parler de ça dans un instant, mais juste sur ce principe d'ordonnance, Aziz Seni, pour vous, est-ce que, on se souvient, le 49-3 déjà faisait beaucoup débat, les ordonnances de nouveau font débat pour vous, est-ce qu'on est toujours dans une démocratie ou, comme certains disent, à l'Assemblée, c'est juste une chambre d'enregistrement ?
Oui. La réalité, c'est ce qui vient d'être expliqué, c'est qu'à l'Assemblée, En Marche est largement.
358 députés.
Hein. Majoritaire. Donc, c'est effectivement l'argument du temps. Est un bon argument avancé en disant par ordonnance ça ira plus vite parce que de toute manière le résultat sera le même. Alors c'est vrai, c'est un peu brutal, c'est vrai qu'en France on n'a peut-être pas l'habitude de l'utilisation, mais c'est un outil qui existe et qui est légitime à être utilisé. Maintenant, sur un cas aussi brûlant et aussi sensible que le statut et la réorganisation de la SNCF, moi, je regrette que les gouvernements précédents n'aient pas fait leur travail parce que c'était quelque chose qui allait arriver et tout le monde le savait. Et là, on va aller dans l'urgence à courir et à essayer de faire. Forcément, il va y avoir un impact et une déflagration sociale. Deuxièmement, c'est que cette SNCF, de toute manière, dans le cadre européen, elle doit être réformée. Donc, la meilleure manière, c'est d'essayer de sortir vers le haut par une discussion. Et on peut discuter tout en faisant des ordonnances. Mmh. C'est pas incompatible.
Ah bah, pour Roxane Lundi, on peut discuter avec les ordonnances.
On ne peut pas discuter avec les ordonnances, c'est le principe. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'elles sont utilisées, mais je suis complètement d'accord avec l'analyse qui a été faite. C'est aussi une manière très subtile de détourner du vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est quand même qu'on a une attaque sans précédent à l'encontre de la SNCF et du réseau ferroviaire français. Et après tout, est-ce vraiment étonnant Après tout, le président de la République aujourd'hui est quand même celui qui est responsable du développement des cars qu'on appelle les cars Macron. Mmh. Et donc, c'est dans la continuité de ce qu'il avait déjà annoncé, savoir on libéralise le secteur des transports, on s'attaque aux services publics et puis tant pis si ça fait plus de pollution, les cars, que le train.
Que le train. Alors, on va voir que tout le monde n'est pas forcément d'accord, en effet, sur cette discussion, même des gens qui pourraient être d'accord économiquement avec le gouvernement. C'est ce matin, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Lui, quand on lui parle d'ordonnance, eh ben, il n'est pas du tout content, même il serre les bras, on l'écoute, Gérard Larcher.
Si le Parlement n'est pas sollicité pour débattre d'un sujet aussi important pour l'aménagement du territoire, il y aura un déni de respect de la démocratie parlementaire. Je le dis clairement, on nous entendra sur ce sujet.
Gérard Larcher, président du Sénat, ce matin sur France Inter, Henri Bernet, est-ce que ça peut être quelque chose de plus compliqué que prévu, finalement, ces ordonnances ? Enfin, s'il y avait des ordonnances ?
C'est quand même... Oui, c'est compliqué. Et Gérard Larcher, je veux dire, il a pas tort. Parce que là, les parlementaires sont extrêmement concernés par ce sujet-là. Bien sûr, il y a tout l'aspect qui concerne en premier chef les syndicats sur le statut des cheminots, les nouveaux entrants, etc., ce dont on a parlé. Mais il y a également le statut, le côté aménagement du territoire. Parce que c'est ça aussi la SNCF. Et notamment la fameuse question des petites lignes, de couper, de fermer, en tout cas de mettre à la concurrence tout ce qui aujourd'hui n'est pas rentable, sachant qu'on voit mal quel opérateur privé se précipiterait sur des lignes dont on dit par avance, dont on constate d'ailleurs qu'elles ne sont pas rentables. Donc ça, c'est quand même un vrai débat. C'est un débat qui est éminemment politique. C'est un débat qui est extrêmement important. Et là, c'est vrai que le recours aux ordonnances, moi, je partage un petit peu ce qu'il dit, c'est-à-dire que il est pas, je vois pas en quoi il s'impose. Est-ce qu'il y a une urgence ? Alors bien sûr, la ministre des Transports avait annoncé la couleur dimanche dans son interview JDD en disant la situation est extrêmement alarmante,
pas
et urgente,
statu quo,
etc.
Là, oui.
Mais comme ils le disent eux-mêmes, quand vient de le dire Castaner, cette question-là, Le particularisme de la SNCF, en quelque sorte, il dure depuis des décennies. Alors certes, il faut le résoudre, mais au point d'utiliser l'ordonnance, je suis pas sûr. Et quand on dit déni de démocratie, c'est un grand mot, mais écoutez, il y a un observateur quand même assez au fait de la réalité politique française qui s'appelle Laurent Wauquiez.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit, la France, finalement, les députés sont des guignols, du fait d'un déséquilibre tel. De dictature. Pourquoi? En raison, justement, d'une chambre, un parlement, qui est avant tout une chambre d'enregistrement. C'est une façon un petit peu de donner raison à ça. Enfin, quand même, ça mérite un débat.
C'est nécessaire, finalement. Est-ce que ça mériterait pas aussi, c'est vrai, un débat, alors, de prendre peut-être un peu plus de temps que d'aller au pas de charge?
Gérard Larcher, il est dans son rôle. S'il défend
pas
le débat parlementaire,
c'est
pas président du Sénat, bien sûr, qui va défendre, excusez-moi de l'expression populaire, son biftec. Il va défendre ceux qui l'ont élu.
C'est pas que le biftec de Larcher.
Ceux qui lui ont donné mandat pour présider cette assemblée, bien évidemment. J'imagine mal le président de l'Assemblée nationale dire bravo les ordonnances. Bien sûr que les deux patrons des deux assemblées vont réclamer des débats. Maintenant, je pense qu'il y a une urgence. Et je le redis, je pense que les ordonnances ne sont pas contradictoires avec des discussions. Ça peut être... J'ai pas entendu « il va y avoir ordonnance ». J'ai entendu « il peut y avoir ordonnance
oui. ».
Ça veut
oui,
dire aussi on a quelque chose sur la table pour négocier. On n'est pas dupes. On sait aussi qu'on met tout sur la table pour voir comment on va discuter.
On va parler justement de la suite, parce que c'est lundi justement que le Premier ministre doit annoncer un calendrier et la fameuse méthode pour avancer sur ce dossier délicat. On en parle dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Autre dossier délicat et un projet d'accord en tous les cas trouvé sur la question de l'assurance chômage. Syndicats et patronats s'entendent ce soir après de longues séances de discussion. Le texte prévoit l'intégration dans certains cas de salariés souhaitant démissionner en vue d'une reconversion professionnelle. Il oblige aussi les branches à ouvrir des négociations pour lutter contre la précarité. Plus de 400 civils tués en 5 jours à la Ghouta par l'armée syrienne. L'ONU réclame aujourd'hui encore une trêve humanitaire au régime de Damas. Il pilonne toujours cette enclave rebelle. Après ces bombardements, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, pense maintenant qu'une offensive terrestre va se mettre en place. Un discours en anglais, Marion Maréchal Le Pen défend sa vision de la France devant tout le gratin conservateur américain. L'ancienne députée FN de Vaucluse dit vouloir s'opposer au monde standardisé de l'Union européenne. Après les rayons d'Intermarché, l'affaire Nutella et Pampers s'examinée maintenant par la justice. La répression des fraudes accuse l'enseigne de la grande distribution d'avoir pratiqué la revente à perte le mois dernier, moins 70% sur ses produits et parfois de belles empoignades de clients dans les rayons. Le groupe Intermarché est passible d'une grosse amende. Et puis vous ne connaissez peut-être pas la femme au béret et à la robe quadrillée. Eh bien, c'est un tableau de Picasso de 1937 en vente le 28 février prochain chez Sotheby's à Londres. Un tableau qui pourrait atteindre une somme astronomique. Sa valeur est estimée à 40 millions d'euros. L'identité de son propriétaire actuel reste confidentielle.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, les choses s'accélèrent concernant la réforme ferroviaire. Vous savez que c'est un sujet un petit peu délicat. La CGT a annoncé un mouvement pour le 22 mars, rejoint donc ce soir par la CFDT Cheminot, également par Sudrail, alors que lundi, eh bien, Édouard Philippe doit annoncer la méthode et le calendrier. Roxane, lundi tout à l'heure, vous disiez, voilà, c'est une attaque contre le service public. Et pourtant, est-ce qu'il a le choix, le gouvernement? Quand on voit une dette de 40 milliards, quand on sait que l'Europe impose une privatisation, est-ce qu'il peut faire autrement, finalement?
Bien sûr que le gouvernement a le choix. L'austérité, de manière générale, est un choix politique. Bien sûr que le gouvernement fait un choix politique en choisissant de s'attaquer aux services publics. Moi, ce que je constate quand même, c'est que c'est une attaque sans précédent faite au statut de cheminot, alors que le statut de cheminot a été développé parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un ensemble de salariés qui travaillent dans des conditions difficiles. Je constate que de la même manière, 10 000 kilomètres de lignes vont être supprimés. Alors, faut pas se leurrer, hein. Aujourd'hui, on défend l'égalité territoriale, on défend le décloisonnement d'un certain nombre de territoires, parce que ce sont aujourd'hui les plus paupérisés, les plus délaissés par les services publics qui vont être concernés par ces suppressions de lignes. Moi, je constate que nous sommes face à un véritable Big Bang de la réforme ferroviaire, comme il en parlait. Je vois l'explosion, je vois pas encore la lumière.
Sophie Fay, est-ce que le gouvernement, là, c'est vrai qu'il est confronté à des échéances aussi, hein. C'est vrai que je crois que cette privatisation doit arriver en...
C'est pas une privatisation, pardon, excusez-moi. Une ouverture du marché à la concurrence.
Pardon, excusez-moi. Oui. C'est moi qui me suis trompé. Ouais, sur la transformation en société anonyme, comme selon le rapport Spinetta, est-ce qu'il peut, aujourd'hui, le gouvernement faire autrement ou il va aller, à votre avis, assez loin et suivre vraiment les pistes?
Non, l'ouverture à la concurrence, elle doit être faite puisqu'on doit transposer en droit français une directive européenne et on est l'avant-dernier pays avec l'Espagne à ne pas l'avoir fait. Donc on va le faire, mais ça ne veut pas dire que la concurrence va déferler. D'abord, comme le disait Henri tout à l'heure, il y a des petites lignes qui sont pas très rentables. La concurrence, elle va regarder si elle peut rentabiliser certaines lignes en fonction de la fréquentation, en fonction de nouveaux modes de transport qu'elle peut organiser.
Par exemple, d'où l'inquiétude de certains, parce que si ça les intéresse pas,
on a vu dans d'autres pays des systèmes multimodaux, c'est-à-dire que là où la SNCF n'opère actuellement que le train, on a vu dans d'autres pays, parfois d'ailleurs c'est la SNCF locale, la Deutsche Bahn qui le met en place, mettre en place des systèmes où aux heures de pointe, là où les trains sont très remplis, on laisse les trains. Et le reste du temps, on laisse passer des trains de fret, par exemple, et on met en place des bus, qui sont pas forcément des grands bus, qui peuvent être des petits bus, ou parfois même du transport à la demande, qui sont des taxis subventionnés. Les gens, sur Internet ou par téléphone, prennent rendez-vous et il y a un système de ramassage.
Donc ce qui se passe en Allemagne.
C'est ce qui se passe en Allemagne. On a aussi des systèmes, on a des gares multimodales où on peut aller soit prendre un train, soit prendre un bus de manière automatique et ça permet d'optimiser chaque moyen de transport. Et encore une fois, dans les pays où on a ouvert à la concurrence, comme l'Allemagne, dans certains pays, pas tous, c'est pas le cas en Grande-Bretagne, l'opérateur national a gardé 70% du marché. Ouais. Donc la SNCF pourrait garder la totalité du marché.
Aziz Seni.
Moi, ce débat, il me rappelle l'ouverture du ciel, il me rappelle Air Inter, Air France, tous ces débats où on disait, les petites lignes vont disparaître, on pourra plus prendre l'avion entre telle et telle ville, etc. Et puis, sont apparus de nouveaux opérateurs, de nouveaux acteurs, avec des prix qui ont baissé, de la qualité qui parfois a même augmenté. Donc non, je m'inquiète pas.
Oui, mais pour toi, Aziz Seni, c'est vrai qu'on dit souvent, vous savez, quand on parle aujourd'hui d'ouvrir concurrence, forcément, on cite toujours la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, ça s'est plutôt mal passé.
Pour chaque exemple où ça a un petit peu capoté, on a en face un exemple où ça marche bien, et l'exemple de l'Allemagne en étant parmi tant d'autres. Bien sûr qu'il va y avoir de nouveaux acteurs, bien sûr qu'il va y avoir de nouvelles réflexions. On ne va pas laisser des gens sur le trottoir dans des zones où il n'y aura plus de lignes. De nouvelles façons de se déplacer vont arriver. Il y a quelques années, Blablacar, personne n'aurait imaginé qu'un opérateur de covoiturage puisse être rentable, privé, etc. Aujourd'hui, ça existe. Donc, ayons confiance aussi en la créativité des entrepreneurs français.
Roxane Lundi, voilà, ça c'est le nouveau monde. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans l'ancien monde?
Je suis complètement dans le nouveau monde. D'ailleurs, toute ma génération est mobilisée sur la question écologique et c'est pour ça que je réagis. Parce que quand vous parlez de Blablacar et des bus qui vont se développer pour remplacer ces lignes, moi je suis quand même choquée de découvrir que le nouveau monde, ce serait de remplacer des lignes non polluantes par des lignes beaucoup plus polluantes face à l'urgence écologique. Aujourd'hui, il est essentiel aussi de prendre en charge ces questions.
Oui, l'électrique arrive très vite aussi sur les batteries.
Ah il arrive, mais en attendant.
Que sur le diesel.
En attendant, c'est pas. C'est pas encore la situation en France, mais je suis ravie de voir qu'on a des combats communs sur la question.
Henri Vernet, est-ce que finalement cette mobilisation du 22 mars, ça peut être lourd, dur, et surtout va être très symbolique par rapport aux luttes sociales dont on parle depuis le début de ce quinquennat finalement?
Oui, il y a ce risque, bien évidemment. Après, il faut jamais s'y tromper, une mobilisation forte, importante, c'est pas forcément mauvais pour un gouvernement. Ça montre que justement, vous êtes un réformateur, vous y allez, vous coltez les choses. vous laissez pas très. D'ailleurs, on voit bien que quel que soit le sujet, c'est une constante dans le discours d'Emmanuel Macron. Il l'a encore dit tout à l'heure à propos des cartes, vous savez, des aides aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Il dit, mais attendez, mes prédécesseurs, et là, il visait aussi bien Hollande que Sarkozy que Chirac, eux, ils laissent traîner tout ça, ils font des moulinets de paroles, et puis en réalité, ils n'agissent pas. Moi, j'agis. Et d'ailleurs, c'est ça aussi bien avec cette réforme, donc avec l'utilisation des ordonnances, comme le fait de se saisir comme ça à bras le corps de ce dossier SNCF, c'est une façon de montrer que décidément, il s'est donné pour mandat, il estime que c'est celui que les Français lui ont donné, de réformer ce pays, et il le fait. Et je veux dire que là, il le fait d'autant plus, de manière d'autant plus spectaculaire avec cette affaire d'ordonnance, avec la dramatisation qu'il y a autour de ce SNCF, parce que bon, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que l'urgence n'est pas devenue, bien sûr que c'est une vraie question, la dette, etc., mais on est encore une fois, je veux dire, les trains, la SNCF, elle va pas être saisie demain par des banques américaines ou chinoises, donc il n'y a pas péri dans la demeure, en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien, Macron, il constate quoi aujourd'hui? Il constate que les Français s'impatientent sur le pouvoir d'achat. C'est le gros problème aujourd'hui.
C'est là, d'ailleurs,
il ne voit pas arriver les résultats. Et Macron lui-même en convient, et comment dirait ses apôtres, ses ministres, qui portent sa parole, nous disent, répètent tous que rien n'arrivera, en fait, avant 2019-2020. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer qu'il ne lâche rien, qu'il réforme, qu'il agit. Alors, et donc, le front syndical, d'abord, ça n'a pas empêché les ordonnances et la loi travail de passer sous cette forme. Donc, il peut se dire qu'il peut rejouer le coup. Mais surtout, encore une fois, ce n'est pas forcément dommageable à l'action d'un gouvernement.
Sophie Fay, juste une chose quand même, parce qu'il y a un chiffre forcément qui est très important, c'est celui de cette dette de la SNCF, c'est 40 milliards dans le rapport Spinetta. Il préconisait que ce soit l'État qui reprenne cette dette. Est-ce que c'est possible? Est-ce que finalement, on pourrait aller vers là? En gros, que l'État, que nous, les Français, on reprenne tous cette dette de la SNCF?
De toute façon, d'une certaine manière, on en est déjà les garants. À part la SNCF, la dette est portée par un établissement public. Et à partir du moment où elle est portée par un établissement public, elle est sous. C'est comme si l'État la détenait lui-même. Donc, ce qui lui permet d'ailleurs à la SNCF d'emprunter à des taux très intéressants. Ce que le rapport Spinetta propose, qui fait beaucoup plus peur aux syndicats, c'est de dire cet établissement public, on va le transformer en société anonyme. Et comme ce sera une société anonyme, il n'aura plus automatiquement la garantie de l'État, et donc il ne pourra plus s'endetter au-delà de sa capacité de remboursement. Donc tout ces grands projets de dire c'est l'établissement public qui va financer le TGV ou qui va financer la rénovation des petites lignes en s'endettant sans limite, puisqu'il a toujours la garantie de l'État, ce ne sera plus possible et la vérité des comptes sera faite régulièrement à la SNCF. Et ça, effectivement, si on va vers une société anonyme, ça veut dire qu'elle peut être à capitaux publics, mais aussi avec d'autres actionnaires. Et ça, les syndicats sont très inquiets par ça.
C'est ça, Aziz Seni, sur cette dette justement aussi abyssale, elle nous appartient tous?
Elle nous appartient à tous. Pourquoi? Parce qu'on a eu des gens très compétents, formés dans de grandes écoles, qui ont géré ce pays et cette société de manière exceptionnelle, exemplaire, et toujours avec plus. Moi, ça fait sur les 30-40 dernières années, on paye de plus en plus d'impôts, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, et sur le retour sur investissement de services publics, forcément, on en a de moins en moins. Donc il y a un problème. Mmh. On met toujours plus d'argent avec toujours moins de qualité. Donc il y a un moment, on va dire stop et puis réorganiser les choses. Alors oui, le changement, ça fait mal parce qu'on quitte quelque chose qu'on connaît, le confort, et on va vers quelque chose qui, par définition, est inconnu. Mais c'est vrai que c'est peut-être un état d'esprit d'entrepreneur, de ses concurrents de l'Amérique et du Far West. Mais oui, il faut y aller et il faut le changer.
Allez, dans un instant, on va parler d'un autre monde aussi, celui de l'agriculture. Vous pourrez répondre, hein, vous inquiétez pas, Roxane, lundi. Dans un instant, l'info à 20h50, Stéphane Milhomm.
Une grève et de grosses perturbations toute cette journée à Air France. Pilotes et personnel réclamaient des hausses de salaire de 6% quand la direction n'en propose que 1%, malgré de bons résultats financiers cette année. 50% des vols long courriers ont été annulés, 15% des vols intérieurs. 750 salariés d'Air France manifestaient à la mi-journée devant le siège de la compagnie à Roissy. Tariq Ramadan reste en prison. Décision de la cour d'appel de Paris aujourd'hui. L'islamologue est en détention provisoire, mis en examen après deux plaintes pour viol. Cette semaine, une expertise médicale confirmait que cette détention était compatible avec son état de santé. Nordal Lelandais est resté, lui, 30 minutes ce matin dans le bureau du juge grenoblois, mais il s'est tu à nouveau après ses aveux la semaine dernière où il reconnaissait le meurtre par accident, dit-il, de la petite Maëlys. Depuis ses aveux, l'ancien militaire se dit fragile psychologiquement. traitement. Il a été d'ailleurs reconduit dans sa chambre de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, près de Lyon. Des températures de 8 à 10 degrés en dessous des normales saisonnières entre lundi et mercredi prochain, les prévisions de Météo France. La vague de froid va gagner tout le pays. Devant cette perspective, une trentaine de préfectures s'apprêtent à réactiver leur plan grand froid, s'assurer de l'ouverture de lits supplémentaires pour les sans-abri. Et puis Lyon est en train de mener 1-0 après sa victoire face aux Espagnols de Villarreal déjà au match aller. La fin de l'aventure en revanche pour Nice dans ses 16e de finale, retour de l'Europa League. Les footballeurs battus 1-0 par le Lokomotiv Moscou. Les Niçois étaient déjà dominés au match aller.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Il nous reste très peu de temps, Roxane Lundi, donc vous pouvez répondre si vous voulez à Zizénie, parce qu'après je voudrais poser une autre question sur l'autre domaine. Donc voilà,
je suis quand même extrêmement surprise de considérer que le Nouveau Monde, c'est un monde qui laisse prospérer les inégalités, que c'est un monde qui ne prend pas en compte l'urgence écologique et que finalement ce Nouveau Monde, ce sera l'aboutissement du libéralisme poussé à son paroxysme. Moi je pense que le Nouveau Monde, c'est celui que ma génération veut mettre en place, c'est celui de la transformation écologiste et sociale.
En tout cas, voilà, vous aurez l'occasion de vous faire ami-ami ensuite. À propos de Nouveau Monde, une chose, parce que toute cette semaine, on décline bien sûr quelques sujets autour du salon de l'agriculture qui commence samedi. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le stand Radio France, et même nous serons, pas nous, mais juste avant le 17-20, France Info sera en direct vendredi, donc demain, depuis le salon de l'agriculture. Une seule chose au niveau communication, Sophie, aujourd'hui, Emmanuel Macron a reçu près de 1000 jeunes agriculteurs. Il leur a parlé, il a insisté sur le fait d'un nouvel accord avec le Mercosur, qu'il souhaitait investir davantage, acquérir du foncier. Beaucoup de jeunes agriculteurs craignaient un coup de com. Est-ce que ce genre de choses sert vraiment à se réconcilier Emmanuel Macron avec le monde rural? En ce moment, on voit qu'il y a une petite tension quand même.
Je ne sais pas si ça le réconcilie, mais il y a un chiffre qui m'a frappé, moi, et qui met tout à coup, qui inverse un peu la logique, qui met le monde rural face à ses responsabilités. C'est ce chiffre, 1 milliard de déficit commercial, 1 milliard d'euros de déficit commercial en bio. Donc on a des agriculteurs qui ont du mal à trouver un marché, ont du mal à vendre leurs produits, à bien les valoriser, et tout à coup on se rend compte qu'on est obligé d'importer du bio. Donc on se dit, mais pourquoi ils passe pas au bio, pourquoi cette profession a tant de mal à changer? Et donc maintenant il a un peu renvoyé la balle dans leur camp, en plus en disant qu'il allait les aider à transformer leur surface.
Alors Henri Vernet, il paraît que les équipes d'Emmanuel Macron craignent ce déplacement de samedi, parce que voilà, il pourrait être chahuté, hein. Il y a notamment le glyphosate, les zones agricoles défavorisées, des classes en manque de professeurs, il y a beaucoup de dossiers. Mais j'ai regardé juste à la présidentielle, le monde agricole majoritairement a d'abord voté François Fillon, puis ensuite Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron. Est-ce que il y a toujours une séduction opérée pour Emmanuel Macron par rapport à...
Mais bien sûr, c'est justement parce qu'il a ce déficit, j'allais dire, originel auprès de ce public-là, qu'il est obligé de déployer le plus d'efforts. Mais c'est à la fois un message pour eux, pour les agriculteurs, singulièrement pour les jeunes, comme vous l'avez dit, c'était des jeunes, hein, ce matin,
oui,
qui ont été reçus. La première dame, Brigitte Macron, elle-même était auparavant allée voir des femmes d'agriculteurs en difficulté. Donc, il y a une opération séduction, déminage, comme on voudra, de la com, bien sûr.
Beaucoup de selfies.
Mais la politique, je disais tout à l'heure, c'est faire des compromis, mais c'est aussi faire de la com. Alors, ouais. C'est malheureux, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et donc, à leur adresse, précisément des agriculteurs, parce qu'ils doivent montrer qu'ils les considèrent, qu'il y a de la considération pour eux, ce qui, au départ, n'a rien d'évident, puisque, vous savez, lui colle à la peau cette image. Ça, c'est une réussite de Mélenchon, lui avoir fait coller cette image de président des riches, d'une part, et puis, là, c'est aussi Wauquiez, président de métropole, ouais, c'est-à-dire l'homme qui haïrait la province, qui haïrait le monde agricole. Et donc, il doit absolument corriger ça, montrer que c'est un président qui est soucieux d'équilibre. On a vu, hein, les de territoire, on vient parler des SNCF, c'est quand même important d'avoir tous les publics en France. Donc il doit recoller ça, et d'où voilà les efforts qu'il déploie actuellement.
Roxane Lundi, quand vous voyez en effet qu'il y a beaucoup de petits signaux qui se sont allumés par rapport au monde notamment agricole, rural, on sent qu'il y a un dialogue qui est difficile à obtenir en ce moment. Enfin d'ailleurs comme avec beaucoup de gouvernements aussi, hein, on a l'impression qu'il y a quand même une confrontation, il y a peut-être aussi un monde, voilà, là aussi qui change aussi malheureusement. On y est très attaché au monde agricole, c'est difficile de trouver une réponse.
Bien sûr que c'est difficile de trouver une réponse, et bien sûr que le dialogue aujourd'hui est extrêmement difficile entre le gouvernement et l'ensemble des agriculteurs. Moi, ce que je constate aujourd'hui quand même, c'est que quand un agriculteur sur deux vit sous le seuil de pauvreté, quand le taux de suicide est extrêmement fort dans le monde agricole, il faut s'interroger et se poser les bonnes questions. Mmh. Je pense que les agriculteurs n'ont pas besoin de câlinothérapie à l'Élysée, ils ont besoin qu'on leur donne les moyens de la transition agricole aujourd'hui.
Ouais.
Pour autant, il y a énormément de chantiers à faire, hein, notamment sur l'agriculture biologique, le passage à l'agriculture biologique, le passage à un système agricole beaucoup plus respectueux de l'environnement, du travail des agriculteurs et de notre santé également. Et je pense que ce sont des situations politiques extrêmement importantes.
Vas-y, c'est très rapidement, voilà, la com autour, on voit le gouvernement qui va beaucoup se déplacer sur place. Emmanuel Macron va passer toute une journée, Édouard Philippe 3 jours, Stéphane Travert, il sera avec Nicolas Hulot. Voilà, donc est-ce que...
Moi, je trouve que cette réception d'autant de jeunes agriculteurs est cohérente avec la vision de France, d'une France entrepreneur dans le monde agricole. Il leur a sûrement dit qu'il serait à leur côté. Il leur a sûrement dit aussi d'être en phase avec le marché. Les Français plébiscitent le bio, plébiscitent le terroir, plébiscitent un petit peu l'authenticité. Il faut que cette agriculture se réforme et je pense que l'État peut aider. On va voir apparaître l'IA, la robotisation, etc. Il faut que les agriculteurs se collent à cela et puis l'État sera là pour les soutenir aussi, comme les autres start-upers d'ailleurs. Et dans beaucoup de domaines de l'entrepreneuriat.
Bien sûr. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup. Aziz Seni d'être passé. Merci, Roxane Lundi. La une de l'Obs.
Comprendre le féminisme de Simone de Beauvoir ou hashtag MeToo, comment ça fonctionne. Et puis une grande enquête sur cette fameuse réforme de la SNCF.
Très bien. Et la une du Parisien aujourd'hui en France.
Bah écoutez, demain, il y a un sommet européen. Du coup, on montre un petit peu comment Macron veut faire la recomposition politique en Europe. Il en rêve. Hein. Rien dit qu'il va y arriver. Mais voilà, comment c'est son objectif. Enfin, comment il compte. Il veut essayer, en tout cas, d'y parvenir.
À retrouver dans le Parisien.